Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël. Et lors de cette émission spéciale, nous allons réfléchir sur le véritable sens de cette fête.
Les événements conduisant à la naissance de Jésus-Christ sont relatés dans les évangiles de Luc et de Matthieu. Ces récits sont ponctués par des cantiques chantés spontanément par des personnages importants. Durant cette courte série marquant la période de Noël, nous allons réfléchir sur le sens de chacun de ces cantiques.
Le premier se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 39 à 56. Il s'agit du cantique de Marie, connu aussi sous le nom de Magnificat. Marie se trouvait enceinte par la puissance de l'Esprit de Dieu et elle s'est rendue chez sa cousine, Élisabeth. Je cède la parole à Sandra pour la lecture de ce récit.
Peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie plus que toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. » Alors Marie dit, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse, car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. » Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert. Comme il l'a promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle.
Merci. Philippe me rejoint sur le plateau et ensemble, nous allons réfléchir sur les leçons à retenir de ce récit lu. Bonjour Philippe.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Le récit biblique lu raconte la rencontre touchante entre 2 femmes issues de la même famille. Un point commun les rapproche. L'une et l'autre vivent une grossesse absolument inattendue, et chacune de ces grossesses tient de l'impossible. Élisabeth est déjà une femme âgée. Elle n'a jamais pu concevoir d'enfant, elle a toujours été stérile. Toutefois, au moment où ces faits sont relatés, la voilà enceinte de 6 mois. Marie, quant à elle, est une jeune femme probablement d'environ 15 ans. Elle était promise en mariage à Joseph, qu'elle n'a pas encore connu, ni connu aucun autre homme d'ailleurs. Et cependant, elle se retrouve enceinte. Ces 2 grossesses surprenantes et miraculeuses avaient été annoncées par un ange que Dieu avait envoyé. Celui-ci avait déclaré à Élisabeth et Marie séparément que ce qu'elles allaient vivre serait l'accomplissement des promesses de l'Éternel pour le salut de l'humanité.
Ce n'est pas la première fois que la Bible relate une grossesse miraculeuse. Je pense à Sarai, la femme d'Abraham, qui lui a donné un fils dans sa vieillesse.
C'est exact, Yann. Sarai ne pouvait pas concevoir d'enfant. Son mari et elle étaient fort âgés, et quand Dieu leur fit les promesses suivantes, ils auraient un fils et d'innombrables descendants. Ces descendants formeraient une nation établie sur leur propre terre. De plus, l'un de ses descendants deviendrait une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Ces promesses représentaient les desseins de Dieu pour l'humanité et elle commence à se réaliser avec la naissance miraculeuse du fils de Sarai et d'Abraham, Isaac.
Ces grossesses inattendues représentent donc un réel miracle. Elles marquent un grand tournant dans l'histoire de l'humanité, car elles répondent au plan établi par Dieu pour le salut des hommes.
Oui, d'ailleurs, le cantique de Marie fait référence aux promesses faites à Abraham. Elle comprend qu'elles représentent un pas de plus vers l'accomplissement de ces promesses. En effet, le fils qu'elle porte est un descendant promis, le descendant qui deviendra une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Jésus, dont le nom signifie « Dieu sauve », vient apporter le salut non seulement à Israël, mais aussi à toutes les nations sans distinction de race. Marie sait qu'elle vit un événement extraordinaire. Elle comprend que Dieu a choisi d'accomplir à travers elle sa volonté. Voilà pourquoi elle est remplie de reconnaissance envers l'Éternel.
Et que devons-nous en apprendre?
La première leçon est celle-ci. La naissance de Jésus représente l'accomplissement des desseins de Dieu, annoncé à Abraham et répété par la voix des prophètes tout au long de l'Ancien Testament. La naissance de Jésus représente un tournant radical dans l'histoire de l'humanité. Elle est l'accomplissement du salut de Dieu.
Le cantique de Marie dépeint Dieu s'opposant aux orgueilleux, aux puissants et aux riches, pour élever plutôt les gens humbles, ceux qui sont vulnérables et pauvres. Expliquez-nous pourquoi Marie s'exprime ainsi.
Je vais vous répondre en posant une question. Si vous deviez choisir une mère pour donner naissance au roi sauveur des nations, qui choisiriez-vous? Beaucoup, je le pense, choisiraient la fille d'un personnage puissant, fort connu et riche. Car le roi des nations ne devrait-il pas naître d'une princesse et avoir pour résidence un palais royal? Marie, à travers le cantique qu'elle chante, exprime que Dieu n'agit pas selon les attentes des hommes. Elle-même est issue d'un milieu modeste. Elle vient d'un petit village insignifiant au nord d'Israël. Elle est promise en mariage à un artisan, un charpentier. Elle n'est ni riche, ni puissante, et de ce fait nullement orgueilleuse. Et pourtant, Dieu l'a choisie pour donner naissance au Seigneur et au Sauveur du monde.
Le cantique de Marie nous révèle-t-il des indices sur la nature du ministère du roi sauveur?
Oui, et une lecture des évangiles le confirme. Jésus n'est pas un personnage important tel que le monde le conçoit. Il n'était ni riche, ni n'occupait une position influente. Il est vrai que les Juifs espéraient que le roi sauveur agirait en puissant guerrier pour chasser l'occupant romain. Et de ce fait, ce Jésus ne correspondait pas à leur attente, il ne répondait pas à leurs souhaits. Au lieu d'organiser une révolte contre les Romains, il prêchait « Aimez vos ennemis ». Les évangiles dévoilent aussi la compassion de Jésus envers les pauvres et les vulnérables, envers tous ceux qui sont brisés et marginalisés.
À travers son cantique, Marie annonce que Jésus nourrira l'espoir des humbles, mais qu'il s'opposera aux orgueilleux.
Oui, et le mot « orgueil » est vraiment à souligner. Celui qui est orgueilleux croit qu'il n'a nullement besoin de Dieu. Il mène sa vie comme bon lui semble. Il rejette les commandements et la sagesse de l'Éternel. Malheureusement, souvent l'acquisition de richesses ou l'exercice d'un pouvoir rend orgueilleux. La Bible déclare que l'orgueil est un péché grave, car ceux qui y sont assujettis vivent loin de Dieu, rejettent l'Éternel jusqu'à prendre sa place. Les humbles, quant à eux, reconnaissent leurs besoins de lui et ont soif de ses paroles. En lisant les évangiles, nous constatons que Jésus s'oppose aux orgueilleux. Il dénonce leur mentalité corrompue et leur agissement méchant. Jésus leur demande de se remettre en question et les encourage à rechercher l'humilité. Mais la plupart de ces gens, poussés par l'orgueil, ont rejeté ses paroles, le message qu'elles contiennent. Certains ont même fini par comploter sa crucifixion.
Et le cantique de Marie suggère que Dieu interviendra un jour pour changer l'ordre des choses. Car même si au moment de la crucifixion, les orgueilleux semblent triompher, même si aujourd'hui certains riches et puissants semblent dominer, Dieu, en son temps, bouleversera ces choses.
À la mort de Jésus, les puissances des ténèbres semblent déchaînées et triompher. Toutefois, trois jours plus tard, Jésus va ressusciter et par sa résurrection, il prouve qu'il est plus que vainqueur. Aujourd'hui, parce qu'il est miséricordieux, Jésus accorde aux orgueilleux du temps pour qu'ils réfléchissent à ses paroles et qu'ils s'humilient. S'ils refusent de changer, s'ils continuent à s'obstiner loin de Dieu, leur destin sera l'enfer. Aujourd'hui, ils se vantent d'être les grands gagnants dans ce monde, mais d'un point de vue éternel, ils seront les grands perdants. Dès le retour de Jésus, l'ordre actuel des choses changera. Il humiliera les orgueilleux et les exclura de la vie éternelle. Leur fin sera tragique.
Oui, mais qu'en est-il des gens humbles?
Pour les humbles, tels Marie, Jésus est le sauveur. Les humbles sont en fait les grands gagnants. Car dans cette vie, ils vivent le pardon de leurs péchés et ils marchent avec Dieu, le Dieu de compassion et de grâce. Puis, dans la vie éternelle, les humbles seront entièrement délivrés de tous les maux et les malheurs causés par les orgueilleux. Et ils vivront à jamais avec leur Dieu dans la paix, la joie et l'amour parfait.
Si Jésus est le sauveur des humbles, il est important de définir cette qualité. Être humble, qu'est-ce que cela signifie?
Les humbles, comme Marie, se soumettent à la volonté de Dieu. Ils ne se rebellent pas contre lui. Les humbles, comme Marie, reconnaissent leurs besoins du sauveur envoyé de Dieu, ce sauveur qui les libère de tous les péchés. Les humbles, comme Marie, font monter à l'Éternel des chants de louanges. Ils ne se vantent ni de leur position, ni de leur mérite. Jésus est né dans un contexte modeste pour apporter une espérance aux humbles. Concluons notre discussion avec la lecture du verset en Matthieu chapitre 5. Ces versets introduisent le sermon sur la montagne.
Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient.
Merci Sandra et merci Philippe pour votre participation enrichissante. Vous serez de retour la prochaine fois pour nous parler d'un autre cantique qui apparaît dans les récits bibliques liés à la naissance de Jésus. Il s'agit du cantique que Zacharie a chanté après la naissance de son fils, Jean-Baptiste.
En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons un joyeux Noël de la part de toute l'équipe d'Espérance aujourd'hui.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.